Mais qu'il y a des choses qui se sont mises
bah
en
oui,
place,
voilà.
c'est parce que je le
Et
vois sur Facebook partager des.
Valentin Rastremblex sur la quartier ouest, c'est la même chose. Stéphane Marteau fait la même chose sur là, le quartier, sur les quartiers est, dont les Hauts-de-Rouen. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Souvent, ce qui est difficile, c'est comment passer l'information. Parce qu'il y a beaucoup trop d'informations des fois et on ne sait pas où aller la chercher. Mais il faut encore développer parce qu'il faut avoir l'avis et les projets d'un maximum d'habitants et d'habitants.
Eh bien, écoutez, merci, merci en tout cas pour les mots que vous nous avez dit à l'antenne. Merci en tout cas d'être venu dans notre émission La Voix des Municipales. Cette émission un peu bilan et un peu future de la feuille de route de la majorité, mais pas que. On va recevoir dans quelques temps Maxime Da Silva aussi qui viendra. Peut-être Grégoire Houdan, s'il souhaite venir en tout cas à notre antenne, il est le bienvenu, même s'il n'est pas venu pendant la campagne, mais le micro lui reste quand même ouvert. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur Spotify et YouTube, et à très prochainement sur nos ondes. Et pour se quitter, j'ai peut-être 33 ans, mais j'aime bien un peu les sons anciens, et je vous propose d'écouter Noir Désir, Le vent l'emportera. À très bientôt sur nos ondes.
Il est 19h.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
En droit, il y a quelque chose qui est souvent invoqué, c'est la question de l'état de nécessité. Au vu de l'urgence climatique, il y a 6 des seuils critiques irréversibles de mise en cause de l'habitabilité de la planète et notamment celle du cycle de l'eau douce qui ont été franchis dans les 10 dernières années.
Benoît Feuillu, co-porte-parole des soulèvements de la Terre.
Et là, on a un parquet qui a expliqué qu'il n'y avait pas d'urgence à agir, qu'il n'y avait pas d'état de nécessité climatique, donc qu'on devait être condamné. Si on s'est retrouvé à agir hier à Sainte-Soline et si on se retrouve à agir demain devant n'importe quel prochain chantier de méga-bassine, c'est parce qu'on considère tous qu'il y a état de nécessité et qu'il y a urgence. Est-ce qu'il y a aussi une justice pour les dirigeants de ce pays qui martyrisent leur population et qui les empêchent de se rebattre pour leurs droits vitaux? Et c'est ça qu'on va mettre en cause au tribunal aujourd'hui.
27 mai 2026, vous voici à nouveau devant le tribunal de Poitiers, dans ce parc où 500 personnes sont venues soutenir les 4 co-porte-parole de leurs collectifs et syndicats, accusés d'avoir organisé la manifestation de Sainte-Soline du 25 mars 2023. Sainte-Soline, où 3000 gendarmes ont lancé plus de 5000 grenades sur 30 000 manifestantes et manifestants, faisant 200 blessés graves, dont 2 comas. Tout ça pour défendre un grand trou vide où il n'y avait rien à dégrader. Après la répression policière, répression judiciaire, avec dès le départ des magistrates et magistrats qui font semblant de ne pas comprendre la différence qu'il y a entre porte-parole et organisateur. Il s'agit de faire payer des boucs émissaires qui ont osé parler pour leur collectif, faire des exemples pour dissuader toute contestation. Ce 27 mai est donc une énième étape de l'interminable calvaire judiciaire de Julien Leguet, co-porte-parole de Bassine Non Merci, dont on vous a raconté les audiences de décembre 2025, mars 2026 au tribunal de Poitiers et le procès de mai 2026 au tribunal de Paris. Également convoqué à ce procès du 27 mai à Poitiers, Benoît Feuillu, co-porte-parole des soulèvements de la Terre, et Nicolas Giraud et Benoît Jaunet, co-porte-parole de la Confédération Paysanne. Au-delà de ce procès pour organisation de manifestations illégales qu'ils n'ont pas organisées, ces 4 porte-paroles vont aussi évoquer la LUA, loi d'urgence agricole votée par les députés de droite, texte méphitique qui signe la mort de nos campagnes avec plus de fermes-usines, plus de méga-bassines, plus de pesticides cancérigènes, plus de suicides de petits agriculteurs esclavagisés et broyés par l'agro-industrie. Salut les amis, c'est JBD pour Polémique, c'est la voix off.com et pour votre radio encore libre préférée, No Basaran et No Pasaran non plus. un village anti-bassine est donc à nouveau sorti de la terre du parc qui fait face au tribunal de Poitiers, où, lors d'une précédente étape de son marathon judiciaire, Julien Leguet s'est vu infliger 20 000 euros d'amende et 6 mois de port de bracelet électronique.
Mesdames, messieurs, qui veut son petit bracelet électronique pour mettre à la cheville à garder pendant 6 mois? C'est aussi votre laissez-passer pour rentrer au tribunal.
Bonjour Christian.
Salut.
En cette période de canicule, tu es presque le corps nu.
Je m'habille d'un bracelet électronique en tissu bleu que je vais devoir porter comme beaucoup d'entre nous pendant 6 mois pour la défense de l'eau.
On en connaît un qui en a un vrai,
un
le bracelet
vrai,
électronique.
Ouais. Il veut pas nous le prêter.
Alors Julien s'interrogeait l'autre jour pour savoir s'il aurait un bracelet électronique du même modèle que celui de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire un bracelet électronique qui permet de prendre des vacances aux Seychelles.
Il y a la demande qui est faite. Hein.
Oui.
Après, c'est avec le juge d'application des peines qui va en décider. Quoi. Les voyages, je sais pas s'ils seront autorisés. Même chez lui, il sera dans les luttes. Par les téléphones, on peut travailler.
Est-ce qu'il aura le droit de lire la Bible et le Comte de Monte Cristo? Et d'écrire un livre?
Il est plutôt en train d'écrire une bande dessinée. Hein.
Alors je crois que quelqu'un aimerait son bracelet électronique. Donc on rappelle, c'est une bande de tissu bleu. Ah, toi, tu l'as pas mis à la cheville?
Non, parce que ça se voit mieux, là.
Voilà. Ah oui, c'est vrai.
Ouais.
Il veut son bracelet électronique.
Même dans les moments les plus dramatiques, ces mouvements bassines non merci et soulèvements de la terre font montre de leur stupéfiante force vitale de joie, de fête. Et tout s'y passe toujours en musique et en chanson.
Nous étions 100, nous étions 1000, nous étions 1100. Nous étions 100, nous étions 1000, nous étions 1100. Nos bassaran, nos bassaran, nos bassaran.
La prise de parole va commencer déjà ? Et par une lecture d'un texte qui a été écrit à plusieurs mains, plusieurs bassines non merci.
Nous étions 100, nous étions 1000, nous étions 1000 et 100. Dans sa chanson Hommage à la manifestation de Sainte-Soline du 25 mars 2023, Christian Paché, artiste du Poitou, fait revivre notre foule qui convergeait vers la méga bassine, ce gros cratère vide gardé par des robots. Il chante « Nous sommes venus nombreux du fond de nos villages, des villages que nos vieux ne reconnaissent plus. Ils ont été vidés et vendus nos campagnes à la spéculation qu'on ne rassasie plus. Oui, nous étions nombreux et nombreuses à converger de toute la France et d'Europe. Nous étions 30 000. Et nous n'étions pas seulement des milliers de corps, nous étions des milliers de voix. Nous étions venus pour dire notre détermination à lutter contre l'accaparement de l'eau, pour chanter notre joie de le faire ensemble, pour crier notre colère face au projet destructeur que l'État impose par la force. Nous étions venus pour porter une parole, celle du peuple de l'eau. Pour la rendre inaudible, l'État a employé les pires méthodes. Il l'a recouvert de bruits de tirs et d'explosions de grenades. Il a tenté de nous faire taire à jamais. Pourtant, le soir même, nous témoignions, nous reprenions du souffle et de la voix. Et depuis, nous n'avons jamais cessé. Nous poursuivons la lutte, notamment en prenant la parole partout. Dans des réunions publiques pour informer les habitants et habitantes des chantiers qui se préparent. Dans les médias pour alerter et défaire le discours du gouvernement. Dans les manifestations pour continuer à dire notre désaccord et pour encourager d'autres à nous rejoindre, dans les ouvrages qui font trace de nos expériences collectives. Jamais nous n'avons laissé s'installer le silence et jamais il ne s'installera. Il n'y a pas 4 porte-paroles, comme voudrait le faire croire l'État, en réprimant et en assignant en justice nos camarades. Au sein de notre lutte, comme au sein de toutes les luttes sociales et écologiques, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de porte-paroles. Dans les rues comme aujourd'hui, ici, dans tous les collectifs, associations, syndicats, mouvements et partis, groupes d'autodéfense et d'éducation populaire qui s'organisent au quotidien contre la destruction du vivant et la montée du fascisme, elles et eux sont nos porte-paroles.
Ce procès en appel est une nouvelle occasion de dire collectivement que défendre l'eau face à la catastrophe écologique est une nécessité vitale. Manifester, s'organiser, désobéir sont des droits fondamentaux. La lutte contre les bassines sont légitimes, ancrées et toujours aussi déterminées. Les alternatives existent, elles se pratiquent et font leurs preuves. Ce procès en appel est une nouvelle occasion de redire collectivement que nous nous tenons toujours aux côtés des blessés graves qui attendent des nouvelles de leurs plaintes depuis près de 3 ans et qui ont dû subir un véritable fiasco judiciaire. Autant d'auditions complaisantes des gendarmes de l'IGGN à la privatisation pure et simple de justice par un procureur zélé. Mais hasard du calendrier, Mediapart et Libération viennent de révéler l'identité du tireur qui a grièvement blessé Serge en effectuant un tir tendu depuis son véhicule blindé. Pourtant, c'est toute la hiérarchie qui doit être identifiée. est jugé pour avoir sciemment organisé l'opération de répression qui ont marqué la manifestation du 25 mars 2023 contre la bassine de Sainte-Soline. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Darmanin, a été à la manœuvre. Il est aujourd'hui ministre de la Justice. Pur scandale, pure provocation. Nous appelons à sa destitution et à sa comparution immédiate. L'État fait la sourde oreille, mais nous ne sommes pas dupes. Nous savons qu'il nous attend, à défaut de nous écouter. Il pense qu'à force de crier, nous perdrons notre voix, mais il se trompe. Nous sommes suffisamment nombreuses et nombreux pour nous relayer. Partout, notre voix porte, nos rangs s'étoffent. Ainsi, depuis 5 ans, de nouveaux collectifs locaux, Bassine Non Merci, voient le jour. Après la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente-Maritime, la Boutonne, des habitants et des habitantes du Finistère, du Berry, du Puy-de-Dôme, du Gard, de l'Hérault, de l'Indre-et-Loire ont rejoint le mouvement. La région parisienne s'est soulevée et a gagné. Le Maine-et-Loire, la Sarthe entrent en lutte. Devant vous, aujourd'hui, nous sommes de l'Inter-Bassine, un collectif qui réunit des membres des groupes locaux pour échanger, mutualiser nos moyens, renforcer la lutte contre les bassines.
Sommes-nous des porte-paroles ? Oui, comme des dizaines, des centaines, des milliers d'autres. Notre camarade Julien Leguet est l'un des nôtres. Depuis des années, il fait l'objet de surveillance, de pression, de répression, d'acharnement judiciaire. Nous dénonçons les condamnations qui pèsent sur lui, notamment la dernière en date, particulièrement lourde et injuste. 6 mois de prison aménagée sous forme d'assignation à résidence avec un bracelet électronique. Nous lui exprimons tout notre soutien, notre force et notre amitié, camarades. Force aussi aux camarades de la Confédération paysanne et des soulèvements de la terre qui comparaissent aujourd'hui et de manière générale à tous ceux et celles qui ont à subir la répression d'État, souvent dans un silence assourdissant. À travers ce procès de l'organisation de la manifestation de Sainte-Soline, ce sont quelques personnes qui sont visées pour leur qualité de porte-parole des organisations ayant lancé l'appel à mobilisation. Alors qu'il s'agit bien de toute une dynamique collective, un mouvement puissant qui s'est levé contre un monde où quelques-uns s'approprient des ressources vitales, comme l'eau, au détriment du vivant et au profit de l'agro-industrie toute puissante. Nous allons continuer, depuis Bassine Non Merci, à porter la parole de l'eau, la parole du vivant. Nous allons continuer d'informer, d'organiser des débats publics pour dénoncer, expliquer, nous organiser face aux offensives de l'État Macron, des Lecornu, des Duplon, des Genevard, ses complices zélés de l'agro-industrie. La criminalisation du mouvement de défense du vivant ne passera pas. Nous refusons d'être réduits et réduites au silence. En désignant nos camarades individuellement, l'État croit désorganiser notre mouvement et le voir disparaître. Qu'il entende bien ceci, à défaut d'entendre le reste. Cela n'arrivera pas. La lutte continue. Où que des travaux de bassine débutent, ici ou ailleurs, nous nous soulèverons toujours. Car le peuple de l'eau est une hydre fascinante, immortelle, dont les membres se coordonnent, pensent et agissent ensemble et qui se renouvellent à l'infini. Nobassaran. Merci. Elles sont et ils sont venus en force aujourd'hui et les tracteurs le prouvent. J'invite la Confédération paysanne à prendre la parole.
Ça fait 24 ans que la Confédération paysanne se mobilise. La première manifestation a eu lieu en 2002 en Charente avec la présence de la moustache de José Bové, déjà présent pour dénoncer cette situation clairement catastrophique. 14 ans qu'on essaye de nous faire croire que c'est une lutte uniquement écologiste. Alors que nous, cette lutte, elle est avant tout pour nous sociale, elle est avant tout pour nous paysannes. Il s'agit bien là, en premier lieu, d'une question d'accaparement de l'eau. Tout ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait une partage de cette ressource qui va être de plus en plus limitée dans le temps. On souhaite que cette ressource elle soit accessible à un maximum de paysans et de paysannes et le système méga-bassine, clairement, il ne permet pas ça puisque l'eau ne provient pas de la pluie, l'eau provient des nappes phréatiques et donc de notre pot commun. Est-ce que c'est normal aujourd'hui que l'on priorise des irrigants qui vont arroser des cultures pour l'exportation, qui vont arroser des cultures pour les méthaniseurs alors même que des maraîchers, des maraîchères n'ont pas accès à cette ressource? Non. Notre boussole, ça doit rester la souveraineté alimentaire. Et aujourd'hui, le système méga-bassine favorise une industrialisation de l'agriculture. Via la concentration des moyens de production, ça va clairement aussi aller vers l'agrandissement et donc vers la disparition même de notre métier. C'est pour ça aussi qu'il faut qu'on se batte en tant que syndicat agricole. Les systèmes de méga-bassines, on aimerait aussi nous faire croire qu'ils permettent de préserver la rémunération des paysans et des paysannes. Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est totalement faux. Puisque on le sait bien, ces systèmes sont extrêmement coûteux pour les fermes qui mettent ce système en place, mais aussi pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes, puisque ces méga-bassines sont ultra subventionnées. La vérité, ce n'est pas le monde écologiste contre le monde paysan. On doit faire apparaître aussi au monde paysan que ce n'est pas dans notre intérêt de classe paysanne qu'on définit par l'immense majorité du monde paysan qui sont les grands perdants du système économique. J'en ai pour preuve les discussions aussi qu'on a pu avoir cet hiver lors des blocages pour empêcher l'abattage total des animaux en Ariège par rapport à la DNC, avec des manques de la coordination rurale. On s'oppose à cette vision nationaliste, à cette vision identitaire. Ce système méga-bassine bénéficie avant tout aux cols blancs de l'agro-industrie, aux agri-managers, aux mains douces, qui ne touchent jamais leurs tracteurs. Ils étaient clairement d'accord avec nous. Et c'est ça qu'on doit faire comprendre à l'ensemble du monde agricole. On ne changera pas le système agricole sans celles et ceux qui travaillent la terre. Cette lutte, elle doit émanciper et permettre de nous unir contre nos vrais adversaires qui continuent à se gaver toujours plus grâce à ce système économique.
Moi, je veux parler surtout de la répression policière, de la répression judiciaire.
Fanny Mettra, de la Confédération Paysanne.
La répression policière, on la vit de façon de plus en plus terrible, accablante. Les jeunes des banlieues avaient l'habitude du délit de faciès et des répressions. On l'a connu avec Adama, avec Naël et tant d'autres. Depuis les Gilets jaunes, on se rend compte que le mouvement populaire est en train de se prendre une grosse claque à chaque fois par les forces de l'ordre. Ce qui s'est passé à Sainte-Soline, et tous le diront, en fait, on a été traumatisés dans les corps, traumatisés dans les esprits. On ne peut pas l'effacer comme ça. La violence d'État qui a eu lieu ce jour-là, elle est démente, presque impossible même à penser. On avait face aux manifestants des chiens de garde, en roue libre totale. Et Mediapart l'a bien révélé, on l'a vu, cette impunité des forces de l'ordre là, elle n'est pas possible dans un État de droit. Et il va falloir vraiment qu'on mette le paquet pour dire... C'est pas le monde dont on veut, ça n'est pas possible. La France ne peut pas continuer à se gargariser d'être un État soi-disant démocratique, un État de droit, le fameux État où est née la Déclaration des droits de l'homme. On a été montré du doigt par l'ONU, par des organisations internationalistes qui disaient « c'est pas possible, il se passe quoi en France depuis les Gilets jaunes, il se passe quoi ?» C'est quoi ce délire que vous êtes en train de faire subir au peuple français ? Et ces traumatismes-là, on pense fort, on l'a dit tout à l'heure, aux quatre plus grands blessés, à Serge, à Michael, à Alix et Olivier. Il y a eu non-assistance à personne en danger et c'est l'État qui est responsable de cette non-assistance. L'État assassine, ouais. En fait, on était des milliers et aujourd'hui, on accompagne les camarades inculpés parce que c'est pas possible, en fait, qu'on continue de choisir une poignée de militants, de manifestants, porter la lourde responsabilité, en fait, d'une lutte collective. Et cette lutte collective, on le redira jamais assez, c'est une lutte collective pour l'intérêt général, pour l'intérêt commun. On se bat pas pour des intérêts privés, on se bat pour toutes et tous. On condamne, en fait, les défenseurs de l'eau alors que les forces de l'ordre qui ont commis des fautes graves, qui ont commis des tirs tendus, mortels, n'ont pas à être inquiétés. Ça fait 3 ans que la justice ne fait rien. Hier, Mediapart prouve quel est le gendarme qui a fait ce tir tendu, qui a blessé Serge Nunez. Ose parler d'usage proportionné de la force, à nouveau. C'est au-delà du possible, c'est au-delà de l'imaginable. La justice a failli. Ça fait 3 ans que la justice ne fait rien. Comment on peut continuer à avoir confiance, en fait, dans un système qui a complètement déraillé ? Et puis on l'a vécu après cette violence policière, cette violence judiciaire. Il y a eu les appels à la dissolution, il y a eu la haine, il y a eu les menaces. Et toutes les organisations, qu'elles soient Soulèvement de la Terre, Bassine Non Merci, Confédération Paysanne et plein d'autres, on s'en est pris plein les dents. Alors qu'on défendait un droit inaliénable, un droit de la population à l'eau. Ce gouvernement, il est complice et on le voit mois après mois, année après année. On l'a vécu cet hiver avec la Confédération Paysanne où La veille, la FNSEA arrive avec les gros tracteurs devant l'Assemblée nationale. C'est tapis rouge pour la FNSEA, pour Arnaud Rousseau. Le lendemain, alors qu'on manifestait pour demander une justice dans les aides publiques données aux paysanneries des Outre-mer, on s'est retrouvé à 52 responsables syndicalistes en garde à vue. Il y a un deux poids deux mesures qui est insupportable, infaisable. Cette répression-là, elle ne s'arrête pas, elle continue, elle se durcit. On est face à un système agro-industriel qui est ultra protégé par l'État, par la justice, par les forces de l'ordre. Il va falloir qu'on soit hyper costaud, va pas falloir qu'on lâche l'affaire, malgré tout ce qu'on se prend dans les dents. La montée de l'extrême droite, c'est là maintenant que ça se joue, c'est là maintenant qu'il faut résister. L'année prochaine, on ne sait pas trop ce qui va devenir de nos luttes de convergence, de nos luttes syndicales. Nous, syndicats paysans, on sera qui demain si l'extrême droite est au pouvoir? Est-ce qu'on pourra continuer à être syndiqués dans une France dirigée par le RN? Il y a un devoir de résistance. Ce devoir de résistance, on n'a pas le choix en fait de le continuer. On n'a pas le choix pour l'eau, certes, pour la terre, pour la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, c'est le droit des peuples de décider de sa culture et de son alimentation. Et normalement, tous les citoyens, toutes les citoyennes ont le droit de décider qu'est-ce qu'on va manger demain et comment on va le produire. Mais aussi une lutte pour les droits humains, le partage des richesses, un accès aux droits pour toutes et tous. Et ce qu'on va demander surtout aujourd'hui, c'est la relax pour les inculpés, relax pour les prévenus d'aujourd'hui. Merci.
Alors que nos collègues sont dans le tribunal, on est quand même en train d'étudier à l'Assemblée nationale un projet de loi d'urgence agricole. Nous, à la Confédération paysanne, on s'oppose depuis le départ à cette loi d'urgence agricole. La seule urgence qu'elle révèle, c'est l'urgence d'Annie Genevard du gouvernement à répondre aux injonctions de la FNSEA. Ils ont encore récupéré les colères agricoles qui se sont exprimées légitimement cet hiver pour avancer sur leur agenda productiviste. Oui, il y a urgence à agir pour le revenu des paysans, pour le renouvellement des générations, pour la transition agroécologique que tous les paysans et paysannes appellent de leur vœu, hein, puisque je rappelle, il y a une étude qui a dit que 90% des paysans et des paysannes étaient prêts à engager une transition agroécologique pour peu qu'on les accompagne. Mais dans cette loi-là, il n'y a rien pour faire face à cette transition et aux revenus des paysans et des paysannes, encore je vous le dis. Et puisqu'il y a des parlementaires avec nous, les féliciter pour le combat qu'ils mènent à l'Assemblée nationale. Je ne félicite pas par contre une grande partie des parlementaires qui ne voient à travers cette loi d'urgence que la nécessité de nous faire stocker de l'eau, d'irriguer, pour satisfaire encore une fois l'injonction de la FNSEA, de l'agro-industrie, d'une minorité d'oligarques agricoles en fait, qui accapare l'eau, qui accapare les subventions, qui accapare les sols et qui va tous nous faire crever. Les élus qui ont ces paroles-là, là, vous les citoyens, les citoyennes, il faudra les attendre au tournant dans les élections parce que c'est inadmissible de ne pas défendre l'intérêt général, l'intérêt des paysans, des paysannes et l'intérêt des citoyens et des citoyennes.
La CGT, rapidement.
Moi j'ai été condamné sur Sainte-Soline 1 pour organisation d'une manifestation interdite en Deux-Sèvres pour la CGT. Il y a un camarade de Solidaire qui a été condamné aussi. Tout notre soutien aux inculpés, ce qu'on demande c'est la relax parce que c'est clairement un procès politique contre la défense du bien commun. On ne peut pas se laisser faire là-dessus. Il y a des répressions syndicales qui sont énormes en ce moment et des répressions surtout sur les questions écologiques. Notamment notre secrétaire confédérale Sophie Binet qui est attaquée par Tefal sur la question des PFAS. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut sauver notre planète et il faut protéger notre bien commun, l'eau. Parole aux inculpés d'aujourd'hui.
À poil, Tefal.
Eh ben nous aussi, on va dire ça pour les soulèvements de la Terre.
Benoît Feuillu, co-porte-parole des soulèvements de la Terre.
J'ai foncé aussi au tribunal et j'irai serein. En fait, ce que vous ont dit l'inter-BNM, c'est aussi ce qu'on va aller dire à la juge. Et pourquoi on y va serein? C'est parce qu'on sait que malgré la loi d'urgence agricole, même s'il redémarre des projets de méga-bassines cet automne, bah nous, on a confiance en allant au tribunal que vous tous et vous toutes et des milliers et des dizaines de milliers de personnes les en empêcheront de nouveau et iront sur le terrain pour les en empêcher. Et si on n'avait pas cette conviction, on n'irait pas serein au tribunal, mais là, du coup, on y va. Et je vous dis un dernier mot, on va parler d'une manifestation passée et la répression de cette manifestation passée, elle visait à nous terrifier, à nous faire renoncer, à nous faire taire et à ce qu'on s'arrête de lutter. Et ça n'a de toute évidence pas marché du tout. Dès le 10 ou 12 juillet, on va aller protéger l'eau vers Compiègne contre le méga canal et c'est hyper important. Et le 26 septembre, on va se retrouver ensemble avec des milliers d'autres devant un des plus gros sites de production de pesticides dans le nord de la France pour dire que partout, il faut arrêter la production de pesticides et aller les chercher à la racine du mal, là où ils sont produits. On le fera de nouveau avec des paysans, avec les ouvriers du secteur et avec tous les défenseurs et défenseuses de l'eau le 26 septembre.
Et je vais faire très très vite parce que l'heure tourne et dans 10 minutes, ben, on est devant les fourches caudines de la Loire. On est 500 cet après-midi et c'est vraiment super. Et puis l'autre truc, avant de passer la parole à Anne et Lisa, moi j'ai qu'une hâte, hein, c'est qu'on sorte de là-dedans et puis qu'on se retrouve tous ce soir pour faire ce qu'on fait à chaque fois, pour faire face à cette oppression. Une grosse belle fête, comme on aime les faire tous ensemble. Et un grand grand merci aux artistes qui, une nouvelle fois, se sont mobilisés. Un grand merci à la Misolte, aux copains de la technique. En fait, si tout ça est possible, c'est qu'il y a aussi des gens qui militent de cette manière-là et qui mettent leur savoir-faire dans le pot commun. Merci à vous tous. Et merci Anne et merci Lisa. Et je te donne la parole parce que je crois que tu rentres avec nous au tribunal.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Anne Stambach-Ternoir, députée de la France Insoumise de Haute-Garonne. Par ma voix, vous avez aujourd'hui le soutien complet de tout mon groupe parlementaire, de tout notre mouvement de la France Insoumise. Soutien aux quatre camarades qui vous face aujourd'hui à la justice, mais plus largement, soutien à tout votre mouvement, à votre combat ici, qui est un combat d'intérêt général pour l'eau. Je crois qu'on ressent tous aujourd'hui bien, hein, dans notre chair, à quel point c'est un combat urgent et nécessaire. Aujourd'hui, justement, dans l'Assemblée, avec Lisa, on s'est échappé cet après-midi, mais comme le disait Stéphane tout à l'heure, nous faisons face au projet de loi dit d'urgence agricole, qui est une horreur et qui, comme après Duplomb, comme après plein d'autres textes iniques, favorise encore et toujours les méga-bassines au bénéfice de quelques-uns, au détriment de absolument tous les autres, paysannes et paysans compris. On vit aujourd'hui un moment assez hallucinant, je trouve. D'un côté, la justice environnementale vous donne raison, puisque la bassine de Sainte-Soline est quand même toujours déclarée illégale, comme d'autres décisions qui sont prises régulièrement contre les méga-bassines. Et de l'autre côté, vous faites face à un acharnement judiciaire absolument inédit, à des sanctions inédites et absolument insupportables. Et ça, c'est le reflet de la doctrine autoritaire que met en place ce gouvernement aujourd'hui, qui veut nous faire taire, qui veut vous faire taire, parce qu'il sait que vous avez raison et que le système qu'ils défendent, eux, est complètement mort. Bon. Alors ils ont recours à la force et comme vous tous ici je pense, jamais je n'oublierai ce que j'ai vu à Sainte-Soline, les 3000 agents autour d'un pauvre cratère avec leurs blindés, les 5000 grenades en 2 heures, les plus de 200 blessés, tout ce genre défiguré, ensanglanté dans la boue. Alors je voudrais le dire ici très fort, honte, honte éternelle au ministre Darmanin, au ministre Nunez, qui encore, monsieur Nunez, qui encore hier... Oui, honte, parce qu'ils ont déployé toute la violence de l'État et hier encore en hémicycle, alors que je l'interrogeais, le ministre Nunez a osé parler encore une fois d'une répression proportionnée. C'est absolument insupportable dans un État de droit. Et je termine juste là-dessus, je voudrais rappeler quand même que ces gens, malgré les 200 blessés, n'ont déclenché aucune enquête. Il a fallu attendre qu'il y ait les révélations de la presse avec les vidéos insupportables filmées par les gendarmes pour qu'il y ait une enquête. Et maintenant que Mediapart et Libération, eux, ont réussi à faire le boulot que les enquêteurs n'ont bizarrement pas réussi à faire en identifiant l'origine du tir qui a failli tuer Serge, eh bien ça y est, là ils nous disent « Ah oui, on va voir, on va pouvoir peut-être faire justice ». Franchement, c'est insupportable, c'est une impunité organisée. Encore une fois, ils savent ce qu'ils font, c'est de la violence d'État, nous ne laisserons pas faire. Nous réclamons justice pour les blessés, nous avons une commission d'enquête, cette demande de commission d'enquête qui est toujours sur la table, et nous demandons la relax pour tous ceux qui font face à la justice cet après-midi. Par chez moi, on dit beaucoup « non macadam », je viens de Toulouse, contre une fameuse autoroute, mais ici je voudrais crier, c'est le même combat honnêtement, hein, c'est comme le méga canal, et donc avec vous ici je veux crier très fort « non macadam !» Je suis Lisa Belluco, je suis députée de la Vienne et donc vous êtes ici sur ma circonscription. Je suis députée écologiste et je vais m'exprimer au nom de mon groupe parlementaire et puis des écologistes. Je voulais vous dire merci. Merci d'être aussi nombreuses et aussi nombreux aujourd'hui. Merci de tenir face à la répression, face au contrôle, face à la violence. Vraiment merci de résister, merci de continuer à dénoncer, de ne pas vous taire et de vous exposer, et malgré l'exposition physique et psychologique que cela engendre. Je vous dis merci parce que votre présence nous fait du bien, je dois vous le dire en ce moment. On examine une énième loi agricole, une loi d'urgence agricole. J'ai fait l'aller-retour, du coup, comme Anne, pour vous dire ce qui se passe à l'Assemblée, donc je vais essayer de faire vite. Mais en quelques mots, cette loi, c'est quoi? C'est la destruction de la gouvernance de l'eau, ce qu'il en reste. C'est la destruction des derniers garde-fous pour protéger l'environnement. C'est l'institutionnalisation des procédures bâillon. C'est la super-criminalisation de tout acte qui toucherait les agriculteurs. C'est le soutien à l'industrialisation de l'élevage. Et évidemment, c'est le soutien aux méga-bassines comme la seule et unique solution d'adaptation au changement climatique. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de la ministre de l'Environnement et de la ministre de l'Agriculture.
Maintenant, le stockage de l'eau est un objectif de gestion de l'eau dans notre code de l'environnement. Alors à l'Assemblée nationale, on a définitivement basculé dans une ère trumpiste. Les mots n'ont plus aucun sens. Mais nous, nous nous battons avec nos mots, enfin on essaye. Mais vous, camarades, vous, paysannes résistantes, paysans résistants, qui êtes en train de rentrer dans le tribunal, et je vais accélérer, je suis désolée, militantes, militants, activistes, vous consacrez votre vie à la lutte. Vous êtes la digue, vous êtes un rempart face à un État qui défend les riches, qui nous criminalise. Face à un État qui autorise la violence, galvanisant les forces de l'ordre prêtes à blesser, voire pire, comme l'ont révélé Mediapart et Libération. Alors pour cela, je vous dis merci. Et à vous qui comparaissez aujourd'hui et qui êtes en train de rentrer dans le tribunal, vous avez notre immense reconnaissance et notre immense respect et notre soutien sans faille et sans fin. Je serai toujours à vos côtés, même si je vous l'avoue,